Chers amis auditeurs, en ce 11 août, émission spéciale comme le 31 décembre dernier. Voilà, dans quelques jours, nous fêterons l'Assomption. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlerons d'Assomption et d'Hormition. Bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous retrouvons Justina. Bonjour Justina.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes titulaire d'un Master 2 en théologie de l'Institut Saint-Serge. Et Catherine Negovanovic qui était déjà venue nous voir. Bonjour,
bonjour
Catherine,
bonjour,
31
France.
Décembre. Vous êtes universitaire, directrice du service de formation du diocèse de Metz. Alors nous avions eu la joie de faire une première émission, donc le 31 décembre dernier, l'Annonciation. Et comme je le disais, cette émission a beaucoup plu à nos auditeurs. Donc, nous poursuivons cette fois-ci nos échanges sur la dormition et l'Assomption. Alors, l'Église orthodoxe insiste sur la douceur de la mort de Marie. Elle est tournée vers Dieu comme durant toute sa vie. Elle n'a pas peur de la mort. Elle sait que Jésus l'accueillera dans le royaume de Dieu. L'Église catholique, quant à elle, ne parle pas de sa mort, mais de son Assomption. Alors, qui veut commencer? Catherine?
Alors, d'accord. Alors, pour nous catholiques, le dogme de l'Assomption, eh bien, s'adosse véritablement au dogme de l'Immaculée Conception qu'on développait la dernière fois. Pourquoi? Parce que Marie, en n'ayant pas été assujettie au péché originel, eh bien, n'est pas assujettie non plus à la mort, c'est-à-dire à la corruption. Alors, pour nous catholiques, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie a été proclamé par le pape Pie XII en 1950. En 1950, dans la bulle papale, hein, Munificentissimus Deus, un très bon exercice de diction, et ensuite dans la constitution dogmatique Lumen Gentium de Vatican II, donc à l'issue du concile Vatican II, eh bien, ça a été expressément formulé encore une fois en ces termes. La Vierge Immaculée, préservée intacte de toute souillure de la faute originelle, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée avec son corps et son âme à la gloire du ciel. C'est au chapitre 59. Alors, par quoi commencer? Alors, peut-être par le fait d'un point qui est souvent mal compris, où on croit que, à tort, que le fait que Marie ait été élevée corps et âme au ciel, cela implique qu'elle ne soit pas morte, en fait, dans sa vie terrestre. Or, le pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II même, en tout cas maintenant, c'est un saint, a fait en 97, il me semble, une catéchèse en disant que Marie, même si ça a été très bref, est morte. Et ça n'invalide en rien le dogme de l'Assomption. Ça ne l'invalide en rien. Alors, pour essayer peut-être de se représenter les choses, j'aimerais prendre appui sur un texte, un extrait de texte issu des visions d'Anne-Catherine Emmerich, qui était une religieuse allemande et une mystique et qui a vécu des expériences mystiques stupéfiantes. Elle a été stigmatisée, elle ne vivait que de l'hostie, hein, donc l'inédit concerne quand même assez peu de figures de l'Église. Et puis elle est la première à recevoir la vision complète de la vie de Jésus-Christ plusieurs années avant Maria Valtorta. Elle a été donc béatifiée en 2004 par Jean-Paul II. Alors, Anne-Catherine Emmerich est véritablement un exemple de sainteté, hein, pour tous les chrétiens, parce qu'elle a, elle a vraiment consacré toute sa vie, hein, toute sa vie, hein, au salut des âmes et au salut des âmes, hein, disons-le simplement. Alors, les visions, en fait, parce qu'elle était alitée, hein, entre 1818 et 1824, les totalités, donc, elle ne les écrivait pas elle-même, c'était Clemens Brentano qui les a retranscrites. Et alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que dans sa vie, ça a eu une répercussion complètement retentissante. Hein. Bon. En tout cas, voici l'extrait que j'ai choisi qui nous donne à voir en fait ce que j'évoquais avec des termes assez imparfaits tout à l'heure, qui nous donne la possibilité de se représenter les choses. Alors je recontextualise, Marie est mourante. À ce moment-là, juste avant le récit que je vais débuter, elle est dans une petite maison à 3 lieues d'Éphèse environ et vient de recevoir la communion et l'extrême onction. Et voici donc ce que nous dit le texte. Je vis les apôtres et les disciples prier debout autour de la couche de la Sainte Vierge. Son visage était radieux et serein comme dans sa jeunesse. Ses yeux pleins d'une sainte joie était tourné vers le ciel. Le toit de la cellule de Marie avait disparu, et à travers le ciel ouvert, mon regard pénétra dans la céleste Jérusalem. Il en descendit 2 nuées éclatantes où se montraient de nombreuses figures d'anges. Entre ces 2 nuées, une voix lumineuse s'abaissa sur la Sainte Vierge, puis une montagne de lumière parut s'élever de Marie jusqu'à la Jérusalem céleste. Elle étendit ses bras vers le ciel avec un désir infini. Son corps fut soulevé et plana au-dessus de sa couche. Je vis son âme comme une figure brillante, infiniment pure, sortir de son corps, les bras étendus et monter sur la voie lumineuse jusqu'au ciel. 2 cœurs d'anges qui remplissaient les nuées resplendissantes se réunirent au-dessous de son âme et la séparèrent de son saint corps qui retomba sur la couche, les bras croisés sur la poitrine. Je suivis des yeux sa sainte âme, je la vis entrer dans la Jérusalem céleste et monter vers le trône de l'adorable Trinité. Jésus la reçut avec un amour tout divin, lui présenta comme un sceptre et lui montra la terre au-dessous d'elle comme pour lui conférer sur elle un pouvoir spécial. Je la voyais ainsi entrer dans la gloire céleste. Alors, on apprend ensuite que le corps de Marie est préparé, porté dans un tombeau.
Oui.
Et voici donc le récit qui suit. Pendant toute cette nuit, apôtres et saintes femmes prièrent et chantèrent des cantiques dans le jardin placé devant la grotte. Tout à coup, une large voix lumineuse s'abaissa du ciel vers le tombeau. Et je vis une gloire formée de 3 cercles d'anges et d'âmes qui entouraient une apparition. Jésus-Christ, avec ses plaies toutes rayonnantes, planait devant l'âme de Marie. Je vis dans le cercle intérieur des figures de petits enfants. Celles du second ressemblaient à des enfants de 6 ans et celles du cercle extérieur à des adolescents. Je ne vis distinctement que les visages. Le reste n'était qu'une forme lumineuse, étincelante. Lorsque l'apparition, qui devenait de plus en plus distincte, toucha le rocher, j'aperçus une voie de lumière qui montait de là jusqu'à la Jérusalem céleste. Je vis alors l'âme resplendissante de la Sainte Vierge, qui suivait l'apparition du Seigneur, passer à côté d'elle et descendre à travers le rocher dans le tombeau. Bientôt après, unie à son corps transfiguré, elle en sortit plus distincte et plus radieuse et remonta dans la Jérusalem céleste avec le Seigneur et toute la gloire angélique. La splendeur disparut ensuite, et l'on ne vit plus au-dessus de la terre que la voûte du ciel étoilée. Et un dernier élément, quelques lignes plus loin, alors que Thomas et quelques-uns veulent aller au tombeau, on lit ceci. Arrivé à la haie qui entourait le sépulcre, ils se mirent à genoux. Thomas et Jonathan prirent les devants et Jean les suivit à l'entrée de la grotte. Ils entrèrent et s'agenouillèrent avec une crainte respectueuse devant la couche sépulcrale de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge, Puis Jean s'approcha de la bière, délia les bandes qui l'entouraient et enleva le couvercle. Approchant alors du cercueil un flambeau, ils virent avec un grand saisissement les linceuls vides. Gardant encore la forme du saint corps, le suaire qui avait enveloppé le visage et la poitrine était entr'ouvert, et les bandelettes des bras déliées, le corps glorifié de Marie n'était plus sur la terre. Stupéfaits, ils levèrent aussitôt les yeux et les mains vers le ciel, comme s'ils eussent vu le saint corps enlevé à ce moment même, et Jean cria de l'entrée de la grotte : « Venez et voyez, elle n'est plus ici. »
Je comprends quelque chose en vous écoutant lorsque vous parlez du tombeau, parce que souvent on nous dit, mais non, la Vierge Marie n'est pas au ciel, on a retrouvé son tombeau. En fait,
vide.
Je ne connaissais pas ce texte d'Anne-Catherine Emmerich et je découvre donc cette histoire de tombeau.
Oui,
Et pourquoi
c'est la transcription de vision intégrale qu'elle a eue de cet épisode et de toute la vie du Christ. Donc ça nous donne à nous représenter, en fait, ce que formule la théologie et le dogme quand il est promulgué.
C'est ça, oui.
Si je peux me permettre,
j'ai
quelques réflexions qui me viennent en tête. Effectivement, nous n'employons pas le terme d'assomption, nous préférons parler d'omission. Et le récit que je viens d'entendre fait beaucoup penser aux sources que j'ai déjà évoquées le 31 décembre, donc le récit de la dormition de la très sainte Mère de Dieu. Et effectivement, avec cette ascension au ciel, donc c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de la version latine, donc de Transitus Mariae. Mais aussi une chose, quand on parle de dormition en tant qu'orthodoxe, il faut comprendre une chose. Nous ne sommes pas des protestants. Donc, nous demandons l'intercession à Marie. Et si nos auditeurs se souviennent de mon intervention par rapport à l'au-delà, la mort, l'intercession et la sainteté, vous savez très bien que déjà pour nous, de notre point de vue orthodoxe, toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté sont déjà dans un état reconstitué et c'est pour ça qu'ils sont en capacité de prier pour nous. Deuxièmement, même si nous n'avons pas de dogme d'Immaculée Conception, même si nous n'avons pas de dogme d'Assomption, il y a une chose très très terre à terre que je vais dire, c'est que si durant les deux millénaires chrétiens, la tradition apostolique pouvait nous témoigner d'un tombeau de Marie qui ne serait pas vide, cela se saurait. Et on aurait une file d'attente qui ferait 50 km composée d'orthodoxes et de catholiques. Donc je veux bien attirer l'attention qu'on nous reproche souvent de faire du business de reliques ou qu'en sais-je. Personne en 2000 ans n'a tenté de le faire. Cela veut dire une chose, c'est que dans la foi profonde de l'Église indivisée et même après le schisme, personne n'a pensé qu'il en vaut déjà la peine d'aller chercher son corps. Et je vais me permettre de citer juste des fragments qu'on chante lors de la dormition. « La mort n'a pas pu te retenir. Toi qui es mère de la vie, tu as été transférée à la vie. » Nous ne nous prononçons pas avec autant de détails de qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement. Et même si je prends aussi Saint Épiphane de Chypre, lui-même, il n'excluait pas, au IVe siècle, qu'elle aurait même subi un martyr dans ses paroles à lui. Mais quoi qu'il advienne, nous n'avons pas de corps.
Et, cela donc, veut quand même dire quelque
ça
chose.
Ça veut dire beaucoup de choses, parce que vous savez, très souvent, on attire l'attention sur ce que nous avons, mais nous ne regardons pas sur ce que nous n'avons pas. Mais excusez-moi, si quelqu'un avait l'idée de faire quoi que ce soit, ou si ne serait-ce que la tentation de chercher son corps aurait été là, je pense que quand on a la tentation de trouver quelque chose, on le trouve, et personne ne l'a fait. Donc, même si on reste très prudent dans l'orthodoxie pour se prononcer sur quoi que ce soit, en soi, l'Assomption ne contredit pas notre tradition. C'est juste qu'on préfère ne rien prononcer, et surtout que si je ne me trompe pas, le dogme de l'Assomption a été prononcé, pas en tant que riposte, mais pour la joie du peuple, c'était la formulation officielle. Voilà, et puisque nous, orthodoxes, on est dans une théologie de riposte, c'est vrai que nous n'avons pas la mentalité à proclamer un dogme juste qu'il soit là, même s'il est mille fois vrai. Pour nous, on est toujours dans un débat, voilà, désolé, chaque confession a sa mentalité, a ses points faibles, a ses peut-être angles de vue qui sont un peu, voilà. Et donc on reste très 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 prudent, mais en soi il n'y a pas de contradiction directe de notre point de vue. J'ai même vu des prêtres orthodoxes, aujourd'hui confondre les deux termes. Parce que voilà, ils sont francophones, eux-mêmes ils font pas la différence entre dormition et assomption, donc j'ai déjà vu un prêtre orthodoxe me parler d'assomption le 15 août.
Alors le pape Benoît XVI évoquait en 2008, il me semble, dans une catéchèse pour le 15 août précisément, que la dormition précédait l'Assomption, en fait, que c'est comme une sorte d'étape, finalement.
L'un avec l'autre, en fait. Ouais. Hmm. Alors, nous allons faire une petite pause à présent. Nous allons écouter « Ô Vierge pure » de Divna Ljubojevic et nous reprendrons notre conversation ensuite.
Je voudrais juste préciser, oui, c'est un hymne du XXe siècle qui a été composé par un saint orthodoxe, Saint Nectaire d'Égine.
Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, pour en revenir à la vision d'Anne-Catherine Emmerich dont vous parliez tout à l'heure, Catherine, on vit vraiment cette Assomption. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, nous commenter cette vision?
Eh bien, en fait, en se plongeant dans ce récit, on arrive à se représenter en fait les choses. On arrive à se les représenter. On arrive en fait à se représenter ce que le dogme dit de façon un peu plus sèche, parce qu'il a besoin d'être synthétique, parce qu'il a besoin d'être finalement théologique et moins narratif en fait. Mais avec donc ce récit, alors qui se poursuit, hein, je n'en ai pris que des bribes. Hein, on se représente vraiment. Ce que ça a pu, voire ce que ça a dû être, en fait. Et ça me fait alors repenser à, à saint François de Sales qui, lorsqu'il pensait à la mort et à l'Assomption de Marie, se disait « mais finalement, sa mort n'a pu être que dans un extrême élan d'amour ». Ben, c'est exactement ce qu'on voit dans ce récit, qu'elle était toute presque aspirée ou attirée ou verticalisée vers le ciel, dans un élan d'amour absolu, en fait.
J'ai même senti cet accueil, oui, en fait.
Ah, oui.
C'est très, très touchant. Parce qu'elle retrouve son fils.
C'est bouleversant. Oui.
Mais on a l'impression qu'elle retrouve Dieu avant tout.
Oui. C'est bouleversant. Elle est accueillie. Hein. Elle est accueillie par toute la cour céleste qui est en joie. Et qui... Alors, vous me faites penser, là, je vois un tableau de Nicolas Poussin dans les années 1630, 31, 32, je ne sais plus exactement, qui peint. Alors, l'un des multiples peintres qui a représenté l'Assomption de Marie, où on voit là, c'est cette Vierge en extase avec les angelots, etc. Et sous ses pieds, alors qu'elle est déjà en train de monter, on voit ce qui s'apparente à un tombeau avec un linge blanc.
Oui.
Et en fait, ça représente bien de façon, picturale finalement, par l'iconographie en tout cas, ce que ces visions d'Anne-Catherine Emmerich... ou Emmerich, pour le prononcer à la germanique, eh bien, traduisent. Hein.
D'ailleurs, en parlant d'iconographie, d'ailleurs, est-ce qu'il serait possible de demander à Radio Courtoisie de mettre cette icône en fond pour l'émission, parce que comme ça permet à nos auditeurs de visualiser justement l'icône de la Dormition. Nous voyons la Vierge Marie allongée sur son lit de mort. Nous voyons les apôtres autour d'elle et nous voyons le Christ descendre et récupérer l'âme de Marie en forme de petit enfant.
Petit enfant, oui.
Donc je pense que ça peut être assez intéressant pour vraiment accompagner notre conversation. Et vous savez, en vous écoutant, il y a quand même un verset de l'évangile qui me vient en tête. C'est l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 51. « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Et donc, comme bon, vous savez très bien que pour nous, ce qui se passe avec Marie n'est pas spécialement lié à son Immaculée Conception, puisque nous n'y croyons pas. Mais effectivement, comme elle est d'une sainteté exemplaire, c'est quelqu'un qui passe de la vie terrestre à la vie éternelle, avec une séparation de l'âme et de corps, mais qui finalement ne passe pas par un état, comme on parlait de Sheol, des états infernaux. Oui. Donc ça n'existe pas. Et je pense aussi que quand le Christ promet à ceux qui le suivent de ne pas connaître la mort, c'est vraiment l'image qui me vient en tête. Et comme pour Marie, c'est vrai que nous n'avons pas de doute, pour d'autres personnes, on peut en avoir, mais ça correspond bien quand même à l'idée de fond que la mort n'a pas de pouvoir sur nous, idéalement, parce que je pense aussi à un problème auquel a dû faire face l'apôtre Paul, au point que lui-même, il n'avait pas la réponse, quand il parlait de la communion indigne, qui, si je communie indignement, je bois ma mort et ma condamnation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand il a commencé à prêcher, il pensait réellement, et toute cette génération pensait que le Christ allait vraiment revenir dans notre histoire tout de suite, dans les années à venir, que certains courants se disaient on ne va plus se marier, on ne va plus faire d'enfants, parce que ça ne sert à rien. D'ici demain, ça va être la parousie, il n'y aura plus personne. Finalement, visiblement, voilà, parce qu'on est en 2024 maintenant, il y a un sacré moment qui est passé, et on pourrait éventuellement se poser la question, mais ça fait des générations qu'on est là, ça fait des générations qu'on prie, qu'on baptise, qu'on se fait baptiser, qu'on communie, et que quand on communie, nous en tout cas, on chante « goûter à la source de la vie éternelle », et on se demande où elle est cette vie éternelle. Mais visiblement, de l'autre côté, elle a déjà pleinement lieu. Et ce n'est pas que dans notre espace-temps, la mort a toujours du terrain, qu'elle a dans la réalité absolue, c'est-à-dire dans l'éternité divine.
Vous me faites penser aux apparitions qu'a eues Bruno Cornacciola.
Alors, pouvez-vous nous dire qui est Bruno Cornacciola ?
Alors, c'est une simple personne, en fait, qui... Comme souvent d'ailleurs, lors d'apparition, ce sont souvent des simples gens qui, en 1947, a eu une apparition en avril de Notre-Dame de la Révélation. Et à un moment donné, donc, elle lui dit ceci, donc Marie, donc mon corps ne s'est pas corrompu car il ne pouvait se corrompre. Mon divin fils et les anges sont venus à ma rencontre à l'heure de ma mort. Et en fait, c'est assez stupéfiant de se dire que le pape Pie XII, dans l'année qui a précédé la proclamation de ce dogme de l'Assomption en 1950, est allé rencontrer Bruno Cornacciola.
Ah oui.
Donc ça dit quelque chose quand même. Alors évidemment, il y a eu une consultation épiscopale internationale, cela va de soi, ça n'est pas Pie XII tout seul qui au Vatican s'est dit qu'il serait opportun de proclamer ce dogme à ce moment-là. Et hormis six voix, l'unanimité a été totale. Mais quand même, le pape qui va voir un simple particulier, si je puis dire, pour aller parler avec lui. Et voilà. Et puis, j'aimerais ajouter autre chose concernant la proclamation du dogme pour nous catholiques de l'Assomption par rapport au moment où ça intervient. Donc on a dit qu'il était proclamé en 1950. En 1950, on est 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, le fait de proclamer que la Vierge Marie a été préservée de la corruption et qu'elle est montée au ciel corps et âme après une guerre... Alors, ne vais pas entrer dans les détails, malheureusement, nous savons tous les abominations qu'il y a eu, à quel point l'être humain a été, comment dirais-je, pulvérisé dans sa dignité, que ce soit dans son âme, dans son esprit et dans son corps. Alors, je crois que ça faisait vraiment sens. Hein. Ça faisait vraiment sens. Et à travers la promulgation de ce dogme de l'Assomption, pour nous catholiques, Marie est vraiment vue plus encore ou plus que jamais, je dirais, comme une figure d'espérance et de consolation. De consolation pour le peuple de Dieu qui est pèlerin dans l'histoire humaine, hein, avec toutes ses vicissitudes.
Vous disiez, Justina, ce n'est pas un dogme. Chez vous, les orthodoxes,
Qu'est-ce qui pourrait être un dogme? C'est-à-dire qu'on ne se prononce pas tout simplement sur la montée, je dirais, au ciel de Marie, corps et âme, mais je demande où est passé le corps? Nous ne l'avons pas.
Très bien. Merci beaucoup, Justina. Et puis, bon été et à la semaine prochaine, chers amis.